Salut, bienvenue dans Maternelle Dégenrée, le podcast qui veut remettre en question les stéréotypes de genre dès l'école maternelle. Les invités du 20e épisode sont Mathilde Baudy et Tiphaine Dieu-Mégard. Ce sont les autrices et illustratrices des livres Le Petit Illustré de l'Intimité. Dans cet épisode, on parle de leurs livres, bien sûr, de l'importance de citer les vrais mots de toutes les parties du corps et du consentement. C'est la première fois que j'enregistre avec deux personnes. Vous verrez, la dynamique est un peu différente. L'épisode a été enregistré en avril. Depuis, le tome 3 sur les conceptions, l'adoption, les familles, la parentalité, etc. est disponible en librairie. J'espère que cet épisode va vous plaire. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Mathilde et Tiphaine.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Oui, tout à fait. Donc, moi, c'est Tiphaine. Je suis co-autrice des Petits Illustrés de l'Intimité. Je suis sage-femme depuis pratiquement 14 ans et je suis aussi maman de trois petites filles qui ont 8, 7 et bientôt 5 ans.
Et bonjour aussi. Donc, moi, je suis Mathilde. Je suis co-autrice et illustratrice des Petits Illustrés. Et je suis professeure d'art appliqué en disponibilité et j'ai deux filles donc de 4 et demi et 8 ans.
Voilà. Merci. Et est-ce que vous pouvez présenter vos livres pour les personnes qui nous écoutent ?
Donc, nos livres, Les Petits Illustrés de l'Intimité. Donc, il y a deux tomes pour l'instant et un troisième en train d'être imprimé. Donc, nos petits illustrés sont des livres pour les enfants, pour qu'ils connaissent leur anatomie, mais pas que. Il y a aussi plein de thèmes abordés comme le genre, comme le consentement, l'accouchement, etc. Et on a débuté cette aventure avec Mathilde parce que nos enfants, nos filles, on ne trouvait pas de livres adéquats, en fait, pour leur expliquer leur intimité. Et donc, sur un pareil un peu fou, on s'est dit, eh tiens, si on les faisait.
Ouais, c'est vraiment parti comme ça, ouais. C'était un espèce de challenge que m'a lancé Tiphaine. On a dit, il n'existe pas le livre qu'on cherche, donc viens, on le fait. Ok. Il faut savoir quand même, on l'a fait et on ne s'était jamais parlé en vrai. Et quand elle m'a lancé ça, hein, on s'était jamais vu, même pas appelé. On s'est échangé nos numéros de téléphone et on a passé plusieurs heures au téléphone. Et puis après, on s'est rencontrés. Et puis, en fait, ouais, le livre est parti comme ça.
Génial. Et quelles ont été les différentes étapes alors de création de ces livres ?
Alors, au début, en fait, ça a commencé vraiment. On s'est rencontrés la première fois sur Paris en novembre 2019. Vraiment, on avait quasiment écrit le livre à ce moment-là, on s'était dit « ouais, ça, c'est bien ». Et puis, en fait, novembre 2019, ouais, et donc on avait envoyé à des maisons d'édition en début d'année, hein, en début de pandémie, bien sûr. On n'a eu aucun retour. Et puis, en fait, il nous manquait quelque chose. Enfin, on s'était senti un peu bridé dans ce qu'on avait fait parce que ça allait pas assez loin, on trouvait. Et aucune maison d'édition nous a rappelé. On a retravaillé le livre et puis on avait comme option, en fait, si aucune maison d'édition voulait nous éditer, ben il fallait qu'on le fasse nous-mêmes, en fait. Et au début, c'était pas facile de prendre cette décision. Je te laisse dire la suite, Mathilde.
Ouais, au début, c'était pas facile, ben, surtout pour moi, déjà parce que on n'avait pas de structure. Pour pouvoir s'auto-éditer, il faut une entreprise. Voilà, on n'avait pas tout ça. Et il se trouve qu'à peu près parallèlement, mon compagnon et moi, on a monté notre entreprise de jouets en bois non genrés également, voilà, fabriqués en Savoie. Et du coup, on était en train de monter les statuts. Et puis moi, j'étais un peu en train de me dire « Ah, c'est dommage, c'est vraiment un beau projet, mais bon, personne n'en veut, donc c'est un peu foutu. » Et Tiffany, elle me dit « Ah non, on n'abandonne pas, on passe sur Ulule. » Et moi, j'étais là, bon, OK. Et du coup, in extremis, j'ai rajouté dans les statuts de l'entreprise maison d'édition. Et donc, c'est ce qui nous a permis d'éditer les livres. Et en effet, comme disait Tiffaine, on est passé par plein de stades. Au début, le livre devait être pour les vraiment petits, ça devait être un pop-up avec des trucs qui s'ouvrent, etc. En fait, on s'est très vite rendu compte qu'en plus, sans maison d'édition, ça allait être très compliqué pour imprimer, surtout si on voulait imprimer en France. Puis en fait, le projet, ça a été comme tirer un fil, quoi. On commence à se dire, bon, ben, on veut parler du sexe, comment est-ce qu'il est fabriqué, etc. Puis ça soulève d'autres questions. Et plus on tire le fil, plus on a envie de dire des choses. Et en fait, du coup, ben, le projet, il a eu... franchement, le premier tome, il a eu 120 versions, quoi. Et même encore aujourd'hui, il a évolué. Là, on le réimprime pour la cinquième fois. Et on a encore changé un truc à l'intérieur. Parce que les conventions ont enfin changé pour désigner ce qu'on appelait du coup les grandes lèvres et les petites lèvres. Maintenant, c'est lèvres externes, lèvres internes. Du coup, ce qui ne donne pas d'indication sur leur taille, puisque c'est souvent pas corrélé du tout. Et du coup, sur la nouvelle version, on a changé ça. Donc, ouais, je pense, ouais, je ne sais même pas combien il y a eu de versions de ce livre, mais il y en a eu beaucoup.
Beaucoup, ouais.
Et est-ce que dès le début, vous aviez l'idée de faire plusieurs tomes ?
Alors, au début, franchement, non. Parce qu'on avait, je pense qu'on n'avait pas cette vision autant sur le long terme. On s'était dit, ce livre-là, il nous manque. Et donc, on a fait le livre qui nous manquait, en fait. Et puis après, très vite, on s'est dit, mais en fait, c'est pas parce qu'on a des filles qu'on va pas leur parler du sexe dit masculin. Et donc, très vite, on s'est dit, bah, nous, il nous faut le deuxième tome, en fait. C'est pas possible de faire autrement. Il nous faut le tome sur le pénis, quoi. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait le deuxième tome. Et puis après, on a réfléchi un troisième et puis un quatrième. Donc, en fait, il y aura quatre tomes, mais c'est trop bon. On va réfléchir à un cinquième, on ne sait pas.
Bon, on en a même déjà un peu parlé, en vrai. Hein. Toujours cette idée de pelote, qu'on tire. en fait, au début, comme disait Tiffaine, c'était un peu égoïste. C'était juste de se dire, on va faire le livre qui nous manque. Et puis voilà. Mais on n'avait absolument pas idée que déjà, on allait réussir à en vendre.
Autant.
Ouais, autant. Encore moins. Mais on s'était dit, faut qu'on arrive... si on fait le Ulule, il faut qu'on arrive à vendre 750 livres. Et on est tout pile, tout juste au niveau budget, quoi. Et du coup, imaginez à ce moment-là, imaginez un deuxième tome, puis un troisième tome, c'était pas possible. Et en fait, très vite, on a été hyper soutenus par plein de gens. Et puis, il y a des personnes qui nous ont dit, mais c'est génial, il faut savoir comment on est fait, c'est super, mais savoir comment est fait l'autre, c'est hyper important aussi. Donc, on s'est lancé. Et puis, tout naît un peu de frustration. On avait parlé des conceptions, enfin de la conception, mais moi j'ai eu mes filles par FIV. Et il y avait une petite frustration de pas avoir pu, c'est normal, hein, dans un livre d'une cinquantaine de pages, on peut pas parler de tout, quoi. Et donc, une petite frustration de ne pas pouvoir parler des différentes façons dont on fait famille, et donc l'idée du tome 3 est arrivée, et puis petite frustration de dire, mais en fait, on parle de consentement, mais on ne parle pas vraiment de relations sexuelles, parce que c'est normal, c'est pas du tout adapté à cet âge-là. Mais en même temps, on a envie d'en parler. Donc, ce sera notre tome 4 pour les plus grands, avec tout ce qui est qu'est-ce que c'est qu'un fantasme, que le désir, que le plaisir, que la contraception, que l'IVG, enfin, que le consentement, mais de façon plus intense. Enfin, il y a plein de choses à dire. Et puis, ça, c'est Tiffaine l'autre jour, tu vois, je disais tout très « Allez !» Et moi aussi, quand même, c'est dommage, on a un peu abandonné le truc des pop-up. Et en vrai, ce serait bien de le faire pour les plus petits. Et donc, peut-être qu'un jour, on arrivera à se lancer pour le faire. Bon, déjà, essayer de faire les quatre tomes, mais...
Ça me semble être une super idée. Vous voulez bien croire que moi, ça m'intéresse encore plus. Vous parlez souvent de vos filles. Est-ce qu'elles ont eu donc l'occasion d'écouter ces livres, de lire ces livres, et qu'est-ce qu'elles en pensent, elles ?
Elles ont été donc à l'initiative de nos livres, mais elles ont lu les différentes versions. Elles ont été là pour nous dire, elles ont été nos cobayes aussi. Donc, alors là, il n'y avait pas de... Alors, elles ont lu le livre, ça leur a plu, elles ont pris les miroirs, elles ont regardé sous toutes les coutures. Enfin, moi, elles sont hyper fières en plus. Elles l'ont emmené à l'école. Voilà, enfin, il n'y a pas de...
Bah, pareil. Pareil, elles l'ont crash testé. Moi, je me souviens, le premier, le tome 1, je le lisais avec un crayon dans la main et quand elle avait des questions, que je voyais qu'elle tiquait, tu sais, je faisais des annotations, elle me disait, mais pourquoi t'arrêtes de lire? Ben, attends deux secondes, parce que je me rends compte que cette formulation est peut-être pas. Donc, mes filles, elles sont fans. Dans la chambre de ma fille, il y a le livre, il est posé sur son étagère en face visible. Elle l'a offert aux maîtresses. Non, bien sûr. Et je sais qu'elle le regarde régulièrement.
Ah oui, moi aussi. Là, la dernière fois, il était dans son lit. Il était dans le lit de celle qui a bientôt 5 ans. La plus petite, elle regarde à fond les images parce qu'elle ne sait pas encore lire. Mais effectivement, il tourne beaucoup. Il est dans la chambre de mes filles. Là-dessus, elles sont hyper contentes. Donc voilà.
Et à quoi est-ce que vous avez prêté attention lors de la création, est-ce qu'il y avait des valeurs que vous vouliez transmettre ou des messages précis, vraiment des attentions particulières?
La première chose, c'était qu'on voulait utiliser les vrais mots et utiliser des vrais schémas, en fait. On voulait vraiment, même pour des enfants, on voulait dire que ça s'appelle un clitoris, que ça s'appelle une lèvre interne et pas la zigounette, la zézette, etc. On voulait les vrais mots. Vraiment, ça nous tenait à cœur avec Mathilde et de faire des vrais schémas.
Il y a une autre chose qui a été un vrai challenge pour nous, c'était qu'on voulait que le livre soit inclusif dans tous les sens du terme, c'est-à-dire avec des représentations de toutes sortes de physiques. On voulait aussi que nos textes, et ça, c'était, je pense, là où on s'est plus cassé la tête, c'est que... alors. Pour que ce soit plus accessible aux enfants, on ne pouvait pas utiliser l'écriture inclusive parce que ce n'est pas encore une habitude qui est ancrée, etc. Et pour des enfants qui apprennent à peine à lire, c'est compliqué. Et la langue française est très genrée. Et donc, on a passé beaucoup de temps à trouver des formulations qui nous permettaient de laisser le champ des possibles ouvert. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a été un vrai challenge.
On va faire des phrases simples, mais compréhensives. Et non genré, c'est pas facile.
Bah surtout quand on parle des organes sexués, où tout de suite, déjà rien que le mot sexe, en fait, le mot sexe, il est les deux, mais du coup, il est rien. En fait, il représente un peu tout. Il représente à la fois des relations sexuelles, à la fois un organe, plusieurs organes, à la fois celui dit féminin et celui dit masculin. Enfin, c'est très compliqué en fait d'arriver à trouver. Il n'y a pas de mots qui désignent l'entièreté, par exemple, de vulve, vagin, utérus. Il n'y a pas.
Et d'ailleurs, c'est pour ça que nos livres s'intitulent Les petits illustrés de l'intimité. Du vagin, du clitoris, on a voulu nommer sur le titre et non le petit illustré, parce qu'au début, on avait des idées, on voulait dire le petit illustré du sexe féminin, et en fait, ça faisait hyper genré, donc on a décidé de nommer tous les mots qui étaient dans le sexe, donc il y avait les lèvres internes, les lèvres externes, enfin, techniques, et donc c'est pour ça que ça s'appelle comme ça dans nos livres.
Très bien. Alors, le podcast s'attarde plutôt aux élèves de l'école maternelle. Est-ce que vous pouvez imaginer vos livres entre les mains d'enfants de cette tranche d'âge?
Ben oui, nous, nos filles, elles sont nos dernières, elles sont en maternelle. Hein. Donc, clairement, elles ont eu le livre entre les mains. Après, nous, ce qu'on dit souvent quand on nous pose la question, c'est que tout dépend de comment et quand est-ce qu'on introduit les choses. Avec un enfant de 6 ans, on va pouvoir tout lire d'une traite, par exemple, et lire vraiment le texte. Avec un enfant plus jeune, on va seulement utiliser les images et des morceaux de texte, par exemple, pour répondre à une question donnée, sans forcément leur taper tout le bouquin d'un coup. Voilà, ils ont une question, il est où mon pipi, il sort comment, j'en sais rien, ton pipi, tu sais, c'est l'urine, il est là, tac, on peut montrer, en fait, s'en servir vraiment comme un support, sans forcément tout lire d'un coup, parce que c'est vrai quand même qu'il y a du vocabulaire, que ça peut être complexe. Nous, ce qu'on dit souvent, c'est qu'à partir de 8-9 ans, tout seul, sans problème, avant, c'est mieux d'être accompagné d'un adulte pour répondre aux éventuelles questions que l'enfant pourrait avoir, ou justement pour simplifier et expliquer seulement le questionnement de l'enfant.
Et puis même parce que nommer, même en maternelle, on doit savoir nommer son sexe, en fait. Ça évite bien les problèmes. Et juste, moi, je sais que sous la douche, par exemple, ma fille se douche toute seule, elle a 4 ans, enfin, voilà. Et elle me dit, quand elle me dit, bah, là, j'ai mal à la zézette, je lui demande, alors attends, est-ce que ta zézette, c'est vaste? Et c'est que tu as des lèvres. Et je prends mes schémas et je lui montre. Et sur elle aussi, donc on a des petits miroirs. Et on avait fait des petits miroirs pour la campagne ulule du premier temps et du deuxième temps. On avait mis des petits miroirs justement pour pouvoir se voir. Et ça, c'est hyper important de savoir vraiment, dès la maternelle, regarder, se regarder, voir comment on est. Ils sont hyper curieux, les enfants, à cet âge-là. Donc, ils ont forcément des questions et c'est à nous d'y répondre. Et je pense que c'est vraiment notre, c'est un bon support là-dessus.
Oui. Et aussi, ça fait partie des recommandations de l'UNESCO, justement, que dès 3 ans, en fait, un enfant, il doit être capable de nommer son sexe et il doit être capable aussi de comprendre que c'est que le concept de plaisir, qu'il peut se donner tout seul à lui-même. De comprendre aussi ce que c'est que le consentement, de comprendre qu'est-ce qui est des gestes acceptables, des gestes pas acceptables. Donc ça, c'est très tôt, en fait. Et on peut parler très facilement à un enfant, mais sans aller dans des considérations compliquées, mais juste dans la vie de tous les jours, de dire, moi, ce que je dis à mes filles, par exemple, c'est on n'est pas obligé de faire un bisou pour dire bonjour. Ce qui est obligatoire, c'est d'être poli et de dire bonjour. Après, il y a plein de façons de dire bonjour. Ça peut être juste en le disant, ça peut être en faisant un check, en touchant le coude, en faisant coucou de la main ou rien du tout. Mais ce qui est obligatoire, c'est de dire bonjour. On n'est pas obligé de faire un bisou, de toucher quelqu'un si on n'en a pas envie. Voilà. Et ça, c'est important aussi. C'est quelque chose qu'on doit apprendre tôt, le consentement.
Oui, et ça va de soi, mais c'est important parce que ça a affaire à la sécurité des enfants. Je pense que parfois, ça va tellement de soi qu'on oublie de le dire. Que pour moi, parler de tout ça aux enfants, c'est dans un aspect de sécurité pour les protéger et pour les protéger maintenant et demain, quoi.
Et d'ailleurs, il y a plusieurs études assez récentes qui montrent que les enfants qui ont une bonne connaissance de leur intimité, de justement ce qui est autorisé, ce qui n'est pas autorisé, comment est-ce que ça fonctionne, etc., ils ont potentiellement moins de chances de vivre des violences à caractère sexiste et sexuel.
Non, mais c'est primordial de savoir comment on est fait pour ensuite, après, dire non, ça, et puis juste pour le respect de l'autre, en fait. Enfin, vraiment, savoir que l'autre est fait comme ça et pas comme ça, et ben ça amène le respect de l'autre, hein, tout simplement aussi. Donc oui, c'est primordial pour la sécurité de nos enfants et pour vivre en harmonie avec les autres, en fait.
Et c'est vrai qu'on a on a souvent dit, par exemple, aux petits garçons, bah toi t'as un zizi, puis petite fille, bah toi t'as pas de zizi. Non, c'est, je veux dire, il y en a un, il a un truc, l'autre il a rien. Ok, c'est super. Et est-ce qu'on peut développer, du coup ? Est-ce que c'est juste un manque ? Et en fait, le fait de connaître l'autre, vraiment, on se rend compte que, en fait, il y a des similarités, qu'il y a des choses qui sont juste montées pas dans le même sens. Fin. Et c'est hyper important aussi de voir que l'autre, il n'a pas juste pas la même chose que soi, en fait. Comprendre un peu les différences, quoi. C'est important.
Oui, comme tu dis, comprendre les différences et les ressemblances.
Ah oui, tout à fait. Tout à fait.
Moi, je me demandais, en tant que maman, en tant que parent, comment est-ce que vous aimeriez ou vous pouvez imaginer que l'on aborde les questions d'intimité avec les élèves dans le cadre scolaire ?
Alors déjà, c'est quelque chose normalement d'obligatoire, en fait. Il y a des cours, alors comment ils appellent ça ? Des cours
à la vie affective et sexuelle.
Voilà, exactement. Et donc, c'est obligatoire, mais ce n'est pas forcément fait tout le temps, partout, et donc c'est un peu mis de côté. Et surtout, c'est vrai qu'il y a des enseignants, ils n'ont pas été formés là-dessus, ce qui est bien dommage. Et puis, donc moi, je trouve ça primordial de faire ça à l'école, de faire ça dans les collèges. Mais enfin, quand on dit souvent... disent ça dans les collèges, mais en fait, ça doit être fait dès l'école et dès l'école maternelle, parce que la notion de consentement, ça doit être dès l'école abordée, dès l'école maternelle. Pour moi, c'est primordial.
Comment vous pourriez imaginer ça ? Justement, donc tout en gardant un peu l'aspect que le podcast, c'est sur l'école maternelle, enfin, dès l'école maternelle, et je crois que c'est un sujet qui fait vraiment peur aux professionnels de l'éducation. Et comment est-ce que vous, vous aimeriez qu'on l'aborde, ce sujet, dans les classes, de manière très pratico-pratique ?
Moi, je pense que ça fait peur parce que c'est quelque chose pour lesquels les profs ne sont pas forcément formés. Donc déjà, ça serait bien de les former. Ou même, moi, je sais que ça se fait dans des écoles de ma ville, parce que je suis aussi, au niveau du planning familial, moi, je suis aussi militante au planning familial. Et je sais que certaines écoles font appel au planning familial pour venir donner des cours justement sur l'intimité, pour faire des sortes de travaux, enfin des choses très interactives avec les enfants. Et ça, c'est hyper intéressant. Donc, sur plusieurs moments de l'année, je crois qu'ils y vont, je sais plus, dans une école maternelle et primaire, ils y allaient je sais plus combien de fois, et puis revoir plusieurs fois les classes, et je trouve ça hyper intéressant de faire venir aussi des intervenants extérieurs quand on ne sait pas comment aborder les choses. Ça peut être aussi une solution.
Et il existe plein de petits ateliers hyper simples, justement pour parler de consentement, par exemple, qui montrent en fait de façon hyper pratique des petites choses, en fait, toutes bêtes. Ou ça peut être, même si ce n'est pas des cours en maternelle, par exemple, ce ne sera pas des cours magistraux où on va dire, alors là, c'est comme ça. Mais ça peut être des choses toutes bêtes, des petites choses à mettre en place, typiquement sur choisir comment on veut dire bonjour à la maîtresse, choisir comment on veut se présenter, apprendre à demander la permission d'un enfant avant de lui tenir la main, par exemple, ne plus obliger à tenir la main les enfants quand c'est pour rentrer dans la classe, quand c'est une question de sécurité, c'est différent, mais je veux dire, on a encore des maîtresses qui obligent les enfants à se tenir la main deux par deux, une fille, un garçon, on ne sait pas pourquoi une fille, un garçon, mais c'est comme ça, voilà, et c'est obligé qu'ils se tiennent vraiment la main, alors qu'ils peuvent juste être l'un à côté de l'autre, sans forcément se tenir. Voilà, ça peut être l'apprentissage, il peut venir aussi de ça, en expliquant, je sais que ma fille, la grande, elle avait fait, c'était en maternelle ou en CP, je ne sais plus, la maîtresse leur avait appris à faire ce qu'elle appelait des messages clairs. Et donc, quand elle voyait qu'un copain l'embêtait, etc., elle disait, je te fais un message clair, ce que tu fais m'embête. Voilà, je n'apprécie pas. Enfin voilà, elle leur avait expliqué comment exprimer leurs émotions sur ce qu'ils ressentaient, sur ce qu'ils avaient envie de faire, pas faire, parce que c'est aussi des compétences qui ne sont pas toujours évidentes d'arriver à exprimer ses émotions et ce qu'on a envie, pas envie, etc. Et je trouvais que c'était vraiment très intelligent, en fait, d'apprendre ça aux enfants. Mais il y a plein d'autres, je ne connais pas tout, hein, mais il y a plein de choses qui existent et qui permettent de parler, d'apprendre à dénouer des situations qui peuvent être très quotidiennes, avec des petits jeux simples ou avec...
De toute façon, à la maternelle, tout passe par les jeux. On ne va pas se leurrer, c'est comme ça qu'on apprend. Hein.
Des jeux, des chansons.
Des livres, mais pour intéresser les enfants, les jeux, c'est super.
Ouais, et tu parlais des livres, je pense que le choix des livres aussi, il y a un vrai travail, je pense... qui n'est pas toujours évidente, parce que souvent, quand on arrive dans une école, il y a déjà une bibliographie qui est mise en place, mais faire un vrai choix de littérature jeunesse sur des choses un petit peu plus modernes, un peu plus inclusives, ou qui évitent les trucs genre Tchoupi, où maman est toujours à la maison, elle ne travaille pas dans la cuisine, Tchoupi ou Petit Ours Brun, on a quand même une vision hyper rétrograde de la famille, de l'éducation, etc. Voilà, il y a aussi montrer d'autres choses. Il y a plein de livres qui sont super, qui existent maintenant. Il faut juste, les connaître, les dénicher et se les procurer parce que ça... En fait, les enfants, ils apprennent, ouais, comme on en discutait l'autre jour avec Tiffaine, ils apprennent beaucoup par observation. En fait, ils font tout le temps une espèce d'analyse de ce qu'ils voient et ils en sortent des espèces de théorèmes de comment la vie est censée être. Et en fait, si on leur présente toujours le même schéma, le même modèle, ben, en fait, ils ont du mal à comprendre que ça peut être autrement. Enfin, petite anecdote rigolote, ma fille était persuadée que les cheveux des garçons ne poussaient pas. Puisqu'ils ont tous les cheveux courts, c'est qu'ils n'ont pas les cheveux qui poussent. Alors que ma fille a les cheveux courts. Hein. Donc, mais du coup, elle n'avait pas tilté, comme elle n'avait jamais vu de garçon chez le coiffeur en train de se faire couper les cheveux. Elle était persuadée, comme tous les garçons autour d'elle ont les cheveux courts, que les cheveux des garçons ne poussaient pas. Voilà. Expérience et analyse de la situation. Et elle en a sorti une espèce de théorème complètement faux, mais parce que, et pourtant, comme Tiffaine, on parle beaucoup de ces choses-là, de tout ça. Mais voilà, malgré tout, il y a quand même des stéréotypes qui vont ressortir et qui peuvent entraîner des mauvaises compréhensions du monde, quoi. C'était marrant.
J'adore, mais justement, est-ce que vous pouvez imaginer les livres que vous êtes en train de faire et que vous avez déjà fait dans des bibliothèques d'école en classe maternelle ?
Ben pourquoi pas ? Moi, je sais que je sais que la maîtresse de ma fille qui est en maternelle en moyenne section a acheté mes livres pour sa fille et qui est un peu plus grande. Après de là, le mettre dans sa classe, je ne pense pas qu'elle l'ait fait. Mais j'aurais bien aimé, hein. Mais alors que je sais qu'elle adore mes livres, mais je ne pense pas qu'elle l'ait mis.
Alors, on a pas mal de professeurs qui l'ont, mais plutôt primaire, collège et même lycée. On sait que nos livres sont au lycée. Pour la maternelle, je pense qu'il y en a, mais disons que c'est le retour des parents. Je ne sais pas si beaucoup d'institutrices et d'instituteurs auront le courage de faire face potentiellement à un parent qui n'accepterait pas. Je sais aussi qu'on a une école maternelle, par exemple, il y a pas mal d'écoles maternelles qui ont commandé les petites affiches. Les filles peuvent, les garçons peuvent être ce qu'ils veulent, voilà, qui sont dans les classes. Mais voilà, où ce serait plus des schémas ou des petites affiches, mais plutôt des petites choses ponctuelles plutôt que le livre en entier. Enfin, je pense. Non pas que ça puisse pas l'être, mais je pense qu'il y aura peut-être un peu de réticence.
Maternelle dégenrée est un podcast qui désire questionner les stéréotypes de genre dès l'école maternelle. Vous, quel stéréotype voudrez-vous que vos filles, parce que vous m'avez dit que vous aviez des filles, déconstruisent ?
Ben justement, j'en ai parlé tout à l'heure, mais que les garçons, au niveau du sport, c'est pas les meilleurs, qu'on est tous égaux, égales, et j'aimerais ça vraiment que ça rentre dans la tête de mes filles, que c'est pas parce qu'on a un pénis qu'on va jouer au ballon, et c'est pas parce qu'on a une vulve qu'on va jouer à la poupée, quoi. Ça c'est plus possible maintenant, en 2022, de penser encore ça. Et c'est encore dans les cours d'école, il y a encore quand même la cour d'école, elle est encore genrée. Ça c'est pour moi, c'est dramatique. Je peux plus voir ces cours d'école où d'un côté il y a des garçons qui jouent au foot et de l'autre côté il y a des filles qui ont une toute petite partie de la cour et qui jouent à la marelle, quoi. Enfin, la cour d'école, elle est faite pour tout le monde et pas seulement pour les pénis sur pattes qui courent derrière le ballon. Donc, ça serait bien qu'on... Non, mais c'est vrai, c'est le partage de la cour d'école. Franchement, ça commence à devenir vraiment un cheval de bataille.
Ouais, mais alors moi, c'est un peu pareil. C'est sur les métiers. Comme tu disais, moi, très vite, mes filles, on leur a dit à l'école, non, tu peux pas jouer avec nous parce que là, on joue aux pompiers et les pompiers, c'est que des garçons. Et j'ai dû batailler avec ma fille, aller lui chercher des images sur Google de pompières pour lui montrer que ça existe, les pompières, les policières, qu'on peut être, en fait, qu'on peut être ce qu'on veut. Et dans les deux sens, parce que les stéréotypes, ils sont enfermants, en fait, pour tout le monde. Et qu'il y a des danseurs, et qu'il y a des coiffeurs, et que... Parce que c'est des stéréotypes qui sont d'une stupide, et qui, en fait, ne reposent sur rien, et qui se transmettent. Et je ne sais même pas comment c'est possible, quoi, de faire encore ça. Donc, moi, c'est ça. C'est vraiment le... Puis aussi sur les qualités. Je sais que c'est très ancré, hein. Moi, quand nous, on a eu donc des filles, et mon compagnon, il adore la science-fiction. Et on lui a dit, quand il a su qu'il y avait une deuxième fille, il avait vraiment pas de chance, hein, toi qui aimes tant la science-fiction, tu vas pouvoir partager ça. Il était là, mais pourquoi ? Parce que t'as pas de garçon. Ah oui, les filles peuvent pas aimer la science-fiction. Non, elles aiment pas la science, c'est connu. Les filles sont nulles en science. Elles sont... Tu vois, mais c'est tellement ancré que la personne qui a dit ça, elle s'est même pas rendue compte, en fait, de l'énormité du truc, quoi. Donc moi, c'est plutôt ça.
Et alors, on sait que dans le programme de l'éducation nationale en France, on parle de l'égalité filles-garçons dès l'école maternelle. Vous, en tant que parente, qu'est-ce que vous attendez de l'école concernant cette égalité filles-garçons ?
Vaste question. Qu'est-ce qu'on attend ?
Moi, j'attends ça, hein, Claire. Parce que quelque part, quand on est parent, sinon on explique tout seul dans notre coin ce qu'on vient de dire sur le fait qu'on peut être qui on veut, qu'on peut aimer qui on veut, etc. Mais si on est les seuls à le dire et qu'il n'y a pas un écho chez tous les enfants, en fait, ben, c'est un peu une pierre dans l'eau, quoi. C'est-à-dire qu'on va élever nos enfants et les pousser à contre-courant de tous les autres qui vont leur dire exactement l'inverse en permanence. En fait, je pense que c'est ça le rôle de l'école aussi, c'est de faire en sorte que tous les enfants aient le même discours, soient encouragés à se développer dans leur personnalité en fonction de qui ils sont et pas en fonction du sexe qu'on leur a assigné à la naissance. Voilà, c'est... Moi, j'aurais vraiment ce truc-là de dire, c'est aussi le rôle de même si on parle, là, c'est de l'éducation et c'est pas de l'enseignement, quelque part, mais ça fait partie, en fait, de compétences et de savoirs qui doivent être communs à tous les enfants. Donc, je pense que, moi, c'est quelque chose que j'attends de la part des maîtresses.
Il y a un écho dans ce qu'on dit, en fait, parce que c'est quand même... on a beau dire ça, c'est vrai chez nous, et ben il faut que ça soit dit par des enseignants, parce que les enseignants, moi dans l'esprit de mes filles, c'est quand même quelqu'un d'important dans leur vie. Enfin, ils y passent quand même, je ne sais plus combien de temps par année, mais c'est énorme. Et c'est primordial que l'école ait cet écho-là, en tout cas.
Ouais, ce discours d'ouverture, en fait.
Pour finir, auriez-vous un bon plan à donner aux personnes qui nous écoutent ?
Un bon plan. Moi, j'ai plein de bons plans de livres, mais il faut peut-être un peu de temps. Ouais, moi, mon bon plan, c'est de prendre plein de livres. Les livres, c'est une ouverture sur le monde énorme et il y a vraiment des super bouquins qui existent aujourd'hui et qui... parce que nous, on a beau dire les choses, le fait de le voir dans un livre, de le voir noir sur blanc, écrit par quelqu'un d'autre... Puis il y a une espèce d'aura du livre. Le livre, c'est quelque chose de je sais pas, il y a une espèce de relation avec le livre, avec ce qui est écrit dans le livre et la façon dont c'est perçu par les enfants. Enfin bref, moi je suis fan de livres et de livres pour enfants. Et il y a plein de choses super et qui offrent plein de visions du monde qui sont super chouettes. Donc s'entourer de bons livres pour enfants et franchement de jeter Tchoupi et Petit Ours Brun parce que enfin franchement il y en a c'est des catastrophes hein. Vraiment donc voilà s'entourer de super bouquins et de choses de plein de créations artistiques et autres qui offrent une ouverture de point de vue et voilà.
Oui, moi aussi je pense que vraiment les livres puis maintenant il y a vraiment en plus si on cherche des bouquins justement sur l'égalité, sur le respect. Enfin, il y a des trucs vraiment super sympas et drôles aussi. On peut rire sans forcément écraser les autres et sans forcément être sexiste, etc. Donc,
Et il faut se les partager. Moi, je sais qu'avec Tiffen, sur notre compte Instagram, on avait fait ça. On s'était fait chacune une petite liste de bouquins qu'on aime bien lire à nos filles et tout. Et je sais que moi, j'ai acheté toute sa pile de livres et je crois qu'on a acheté quelques-uns. Mais il y en a, c'est devenu des bestes à la maison. Enfin, moi, La Révolte des Cocottes, si je le lis pas une fois toutes les deux semaines, une fois par semaine, ça fait mourir de rire. Puis en plus, même moi, c'est hyper agréable à lire, c'est drôle et tout.
C'est chouette parce que justement, moi aussi, j'avais envie de parler d'un livre comme bon plan. Et moi, mon énorme coup de cœur, c'est Julian est une sirène de Love Jessica aux éditions École des loisirs.
Moi, je l'ai. J'ai Julien au mariage aussi, qui est super. Non, mais il y en a plein. Ils sont, en plus, c'est magnifiquement dessiné. C'est très, très, très chouette. Je l'ai pour les filles. Ouais.
Moi, je le vois comme un soleil, ce livre. Donc, je tenais absolument à en parler.
Ouais. Et ouais, c'est le genre de livre. Il est à la fois, il est mignon et à la fois, presque, il met une petite larme à l'œil quand on le lit à la fin. Enfin, moi, je vais pas spoiler le livre, mais il est super. Non, il est super.
Eh bien, merci Mathilde et Tiffaine d'avoir fait partie de l'aventure maternelle dégenrée. Ça m'a fait vraiment très plaisir de pouvoir discuter avec vous de vos livres et de ce projet que je trouve vraiment très, très intéressant et chouette.
Eh bien, merci.
Merci pour ton invitation.
À bientôt.
C'était le 20e épisode de Maternelle dégenrée, le podcast qui veut remettre en question les stéréotypes de genre dès l'école maternelle. Merci à Mathilde et Tiffaine pour leur bonne humeur et cette chouette conversation. Je vous conseille vraiment de consulter les 3 premiers tomes des Petites Illustrées de l'Intimité. L'épisode suivant sera disponible le dernier mercredi du mois prochain. En attendant, je vous invite à suivre la page Facebook et Instagram du podcast pour plus de bons plans. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Si vous aimez le podcast, pensez à lui donner 5 étoiles sur Spotify et laissez votre avis sur iTunes. Ça prend quelques secondes et ça permet vraiment de donner de la visibilité aux émissions. Parlez-en autour de vous. C'était Alison Allard et je vous dis à bientôt !